France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Peut-être que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
La semaine dernière, l'auditorium de Radio France accueillait un événement original, Classic and Mix, un concert au cours duquel une grande œuvre classique est jouée d'abord par l'orchestre pour être ensuite revisitée par des musiciens électro. Au programme, les tableaux d'une exposition modeste Moussorski, chef-d'œuvre de la musique russe, qui a donc été jouée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, et puis par le pianiste électronique Lake et les artistes de la scène électro Select et Love. Un nouveau rendez-vous porté par cette envie de titiller nos oreilles et de croiser un petit peu plus régulièrement les genres au sein de la grande maison. On dit oui, oui, oui. Danse infernale pour accueillir notre invité, celle de l'Oiseau de Feu de Stravinsky, joué ici par l'Orchestre Les Siècles, François-Xavier Rode. Bonjour, Huel Lamor.
Bonjour.
Bienvenue sur France Musique.
Merci.
Plaisir de vous accueillir. Compositrice, arrangeuse, productrice, chef d'orchestre. Ça commence fort.
Je sais pas, peut-être. Moi, j'ai juste l'impression de juste faire de la musique et faire ce qui me plaît, quoi. C'est tout.
Mais c'est amusant, au moment où ce Stravinsky a démarré, vous avez un petit peu bondi sur votre siège de satisfaction.
Oui, non, mais j'adore ce morceau extrait de l'Oiseau de Feu parce que je trouve que c'est métal, quoi. C'est math rock presque.
Ça veut dire quoi, métal ?
Enfin, je trouve juste que c'est, y a vraiment une énergie et on a envie de un peu faire du headbanging avec sa tête comme ça. Enfin, ça déboîte, quoi. C'est trop bien.
Et qu'est-ce qui vous fascine chez ce compositeur ?
En fait, moi, j'aime bien tous les compositeurs qui ont vraiment cherché à un peu retourner aux sources des musiques folkloriques de leur pays. Et Stravinsky, c'est un bon exemple parmi tant d'autres pour la musique russe, notamment. Et je sais pas, je trouve que ça a été un mouvement très intéressant dans la musique classique quand il y a eu cette émergence de compositeurs russes, tchèques, anglais, etc., espagnols aussi, qui ont vraiment
l'inspiration populaire.
Ouais. Après, est-ce qu'on peut dire que c'est populaire ? Je sais pas. Je pense que c'est vraiment renoué avec l'histoire de son pays, parce qu'à l'époque, la musique classique était essentiellement dominée par l'influence allemande, italienne et française, et tout le monde voulait copier ce que eux ils faisaient. Du coup, il y avait une homogénéité un peu bizarre en Europe. Et je trouve que c'est quand, surtout avec la musique russe, en fait, ils sont revenus au folklore et ils ont trouvé des musiques avec des rythmes. Des métriques étranges, des façons de jouer différentes. Ils ont utilisé des instruments dans des registres qui n'étaient pas habituels. Et c'est ça qui fait avancer la musique, quoi. Je trouve ça bien.
C'est une manière de se réapproprier aussi, en quelque sorte, la musique. Vous, votre univers, Huel Lamor, est plus celui de la pop, de l'électro, de la musique indé. Que représente la musique classique pour vous ?
En fait, ça représente plein de choses. Parce que moi, j'ai étudié la musique classique vraiment sur le tard.
C'est-à-dire ?
Quand j'ai fait mes études à l'université aux États-Unis, j'ai étudié la musique classique, je devais avoir 22 ans. J'ai étudié pendant 3 ans et j'y connaissais absolument rien. Je n'avais jamais mis les pieds dans un conservatoire. Je venais vraiment du rock et du jazz. Et ça m'a ouvert tout un univers et ça m'a vraiment permis de penser la composition de manière différente. Parce que les compositeurs de musique classique, en fait, sont très libres dans la manière dont ils écrivent. Enfin, on n'a pas cette image-là, mais
c'est
fait,
ça que j'allais dire.
Ils le sont, en fait. Ils font vraiment un peu ce qu'ils veulent. Et je sais pas, franchement, ça m'a fait du bien parce que j'ai trouvé une ouverture d'esprit dans la musique classique que j'avais pas forcément trouvé dans le jazz et le rock. On était quand même très dans nos clics, dans tel style, nos influences et tout ça. Et quand j'ai étudié la musique classique en étant totalement néophyte, enfin, j'ai trouvé que c'était trop bien parce qu'il y avait des gens qui adoraient les trucs vraiment super bizarres de musique classique, genre Schoenberg, etc. Il y en avait d'autres qui étaient fans de baroque, d'autres qui adoraient les grosses symphonies, et tout le monde aimait d'autres qui aimaient les trucs plus vers l'électronique, Steve Reich, etc. Et on avait tous en commun qu'on aimait juste en fait ce qu'on entendait, et c'était, je trouvais que c'était très rafraîchissant, quoi. C'était bien.
rester en a ici avec ce violon solo qui joue pendant plus de 2 minutes avant que l'orchestre ne prenne vraiment sa place. The Lark Ascending de Ralph Vaughan Williams, véritable tube en Angleterre, moins connu ici de notre côté. L'envol de l'alouette, œuvre de 1921, que vous avez choisi pour nous, Huel Lamor, dans cette version d'Ida Haendel, l'orchestre philharmonique de Londres, Roger Norrington. Quelle beauté délicate.
Ouais, c'est très très beau. Enfin, c'est plein d'émotions, ça donne la chair de poule, je trouve.
C'est vrai.
Même si on connaît pas le compositeur et qu'on écoute, on est tout de suite. Moi, ça me fait penser à la Comté dans Le Seigneur des Anneaux, enfin, plein de trucs comme ça.
C'est vrai qu'on s'imagine de beaux grands paysages splendides, assez désert aussi.
Oui. Et puis, Vaughan Williams, un peu comme Stravinsky, il fait partie des compositeurs qui ont vraiment ramené le patrimoine musical de leur pays en avant, quoi. Et il a fait beaucoup pour l'héritage musical anglais. Et puis, c'est un morceau qui est un peu triste, en fait. Parce que moi, quand je l'avais étudié, on m'avait dit ça, et je pense que ça m'a l'air d'être assez plausible. Mais en fait, The Lark Ascending, ça parle des jeunes soldats qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est le soldat qui meurt et qui va au paradis, quoi. Et je trouve que quand on l'écoute en ayant ça en tête...
Conscience de
ouais,
ça.
Ouais, c'est hyper fort, en fait. Et ça montre aussi à quel point Vaughan Williams était attaché à son pays, quoi. Et je trouve que c'est juste très fort. Et moi, j'aime pas la musique classique avec les solistes. Mais ça, c'est peut-être le seul morceau où j'adore, en fait. Parce que je trouve que le soliste et le tutti, l'orchestre, ça marche tellement bien ensemble. Et en fait, le soliste, il est pas là pour montrer qu'il sait bien jouer, en fait. Il raconte vraiment une histoire et il est un personnage à part entière dans ce que Vaughan Williams veut décrire.
Et c'est sans doute tout le talent d'Ida Haendel dans cette version aussi. Huel Lamor, je vous ferai changer d'avis sur ce que vous venez de dire. Je vous ferai écouter de merveilleux solistes.
Non, mais ça n'a jamais été mon truc. Hein. J'en ai écouté, mais c'est pas ça.
Vous avez fait du violon, vous, toute petite. Ouais, vous n'avez jamais rêvé, justement, d'interpréter un grand concerto.
J'ai fait du violon 2 ans à 5 ans. Je sais pas si vous voyez ce que ça peut donner, mais c'est pas...
Puis la guitare, ensuite.
La guitare, ça, c'est mieux. Mais je sais pas, chacun son truc.
Alors, vous parlez énormément de pays. On va aller faire un petit tour du côté du Mexique avec votre choix musical, Huel Lamor, suivant La Noche de los Mayas Silvestre Revueltas.
Thank you.
Le tout début de La Noche de los Mayas, Silvestre de Vueltas, à la composition, l'Orchestre National des Jeunes, Simon Bolivar du Venezuela et Gustavo Dudamel à la direction. Le choix musical de notre invité, Evel Lamor, ce compositeur mexicain qu'on a peu... Et je suis très heureuse que vous me l'ayez proposé, parce qu'on a peu l'occasion de l'entendre.
Pourtant, légende d'Amérique centrale, enfin d'Amérique latine. J'aime beaucoup l'œuvre de Revueltas. Encore une fois, un compositeur qui allait piocher dans le folklore de sa culture. Enfin, c'est quand on voit ses partitions, il y a tellement d'instruments qui sont limite introuvables en Europe, quoi. Et à mon souvenir, La Noche de los Mayas, à l'origine, c'est la BO d'un film qui
absolument,
est éponyme.
Absolument, de 1939.
Voilà. Et je
film
pense
de Chano Urueta.
Que je n'ai pas vu.
Eh bien, que je vous invite à regarder.
Vous l'avez vu ?
Non, pas du tout, mais nous allons le regarder ensemble, Evel Lamor.
Ça marche. Et je pense que aussi ça fait une bonne connexion avec la musique de film, qui, je pense, est une bonne manière pour les gens d'être introduits à la musique classique. Parce que, en fait, quand on regarde des films, on en écoute tout le temps.
Vous l'avez fait, vous, au moment où vous avez étudié la musique classique lors de vos études aux États-Unis?
Bah, en fait.
Vous êtes plongé aussi plus, ou vous avez peut-être regardé les films différemment? Vous les avez entendus d'une autre manière?
En fait, j'ai entendu dans les films toutes les influences de la musique classique. Enfin, Star Wars, c'est incroyable. Hein. Il y a des motifs, c'est Stravinsky à 100%. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte de l'influence que la musique classique avait eue sur plein de choses, enfin même sur des artistes que j'adore, Miles Davis par exemple.
Et puis ça vous influence, j'imagine, vous aussi en tant que compositrice, comme arrangeuse, vous avez écrit la BO de Marcher sur l'eau, film d'Aïssa Maïga. Comment est-ce que la musique classique vous nourrit?
Je pense que c'est une catégorie de musique qui est dont la grande force est de raconter des histoires avec juste du son. D'où le fait que avec la musique à l'image, ça marche forcément très bien. Comme je l'ai dit, c'est un... J'ai pas envie de dire c'est un style de musique parce que ça veut rien dire, quoi. Aujourd'hui, il y a des artistes néoclassiques qui sont rattachés au classique, mais si on écoute, c'est pas du tout du classique, quoi. J'ai des gens comme Mika Levy ou la Fjord Arnett et tout ça. Mais enfin, il y a tellement d'idées et de choses innovantes qui sont faites. Surtout aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un renouveau qui est en train d'apparaître. Que c'est trop bien, surtout que la musique de film, c'est un exercice où on peut parfois vraiment se lâcher et tester des trucs. Donc, comme sur Marcher sur l'eau, on avait 8 flûtes, donc c'était pas commun. On a engagé toutes les flûtes de la Belgique, mais c'était trop bien. J'adorais.
France Musique, Saskia Deville.
De ce concert que vous avez partagé avec Max Cooper, producteur irlandais de musique électro et techno. C'était en décembre dernier, captation au Théâtre du Châtelet, à voir en ligne dans le cadre de cette série Variation qui est proposée par France Télévisions, qui propose des rencontres entre musiciens de formation ou musiciens classiques et des artistes d'autres univers musicaux. Vous êtes attaqué à l'œuvre de Terry Riley. Parlez-nous un petit peu de cette expérience, Evel Lamor.
Alors ça, ça a été un des concerts qui a survécu à l'après-Covid, parce qu'on était censé le faire depuis longtemps, mais bon, on n'avait pas pu. Et on avait décidé avec Max de travailler sur Terry Riley, parce que déjà, ça correspondait au cahier des charges de variation. Et ensuite, parce que lui et moi, on aime beaucoup tout ce qui est ambiante et les musiques très minimalistes. Et Terry Riley, c'est un peu un des pères de ce style de musique. Quelqu'un qui a beaucoup expérimenté et qui a apporté beaucoup de choses à l'électro. Et oui, moi, j'étais contente parce que c'était peut-être le seul projet que j'ai fait à l'arrangement et à l'orchestration cette année-là, parce que j'étais à fond dans la production de l'album et tout. Donc c'était cool de faire un truc avec un petit comité de cordes, 7 cordes et Max. Et mine de rien, c'était assez difficile, un peu challenging la musique. Mais ça va, on s'en est bien sorti au final.
Et je confirme, le spectacle et le concert est magnifique. Vous avez votre propre orchestre, hein. Ouais. UL La Mort, l'orchestre Orage, orchestre de musiques actuelles. Comment est-ce que vous travaillez avec vos musiciens?
Alors, l'orchestre Orage, il n'existe plus. Maintenant, c'est des musiciens... j'ai mon équipe régulière quand j'ai des projets comme ça. C'est des gens que je connais depuis... personnellement, depuis que je suis à Paris, depuis 5 ans. Et je sais pas, ça se passe toujours bien. Maintenant, on se connaît tellement bien qu'on sait à chaque fois, quels que soient les projets sur lesquels on est amené à travailler ensemble, on a une méthode de travail qui est toujours la même. Et on est très zen. On est des gens très zen et très, très cool.
On l'entend à votre ton posé, UL La Mort. En tout cas, on espère beaucoup d'autres projets à venir. Merveilleux projet. J'aimerais quand même annoncer à nos auditrices, nos auditeurs, la sortie de votre premier album, Loom, chez Sony. Ce sera le 18 février prochain. Et puis, un concert à la Gaîté Lyrique à Paris. Ce sera le 9 mars prochain. Beaucoup d'autres dates, évidemment. On va mettre toute la liste sur la page de l'émission sur francemusique.fr. Et puis, comme ça, nos auditrices, nos auditeurs pourront découvrir votre univers. En attendant, on va écouter un titre de cet album, Breath. Vous allez mieux le prononcer que moi.
Breathe.
Merci beaucoup, UL La Mort, d'être venu nous voir dans cette émission. On était ravis de vous recevoir. Et puis merci à toute l'équipe, Éric Lancien, Pauline Boisaubert et Xavier Lévesque. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.